9h23, notre invité ce matin nous présente un récit autobiographique. Mark Griffin est avec nous. Il a joué au baseball dans l'organisation des Dodgers, des Expos. Maintenant, commentateur sportif. Bienvenue à l'émission.
Merci, Paul.
Moi, je connais pas le sport. Fait que je le regarde pas comme étant un spécialiste ou analyste de sport. Il y a quand même des trucs qui m'ont frappé. Puis je vais commencer au début. Je pense que les gens soupçonnent pas toujours le besoin d'engagement d'un jeune qui veut performer dans son sport, puis les sacrifices que ça demande. Vous décrivez page après page, là, une blonde qui se tente de vous voir choisir le baseball, puis que, bon, ben, moi, c'est le baseball, qu'est-ce que tu veux pour l'instant? Ça veut dire travailler beaucoup, ça veut dire s'entraîner beaucoup, puis ça veut dire faire des sacrifices, si j'ai bien compris.
Ben, c'est un peu de l'acharnement, effectivement. C'est, à un moment donné, tu réalises dans quoi tu t'embarques. C'est une espèce de jungle, tout ça. Puis, alors, il faut que tu fonces. Puis, il n'y a pas mille façons de foncer. Tu fonces dans le tas, puis tu y vas. Alors, je n'appelais pas ça des sacrifices, parce qu'à l'époque, je voulais vraiment, c'était un rêve qui était ancré en moi. Mais effectivement, c'est des étapes. Puis tu sais, quand t'embarques dans ça, tu t'attends pas à ça. Tu vas le vivre. Mais c'est vraiment quelque chose d'assez intense. Et t'apprends sur le tas. Puis tu fonces. Et je veux dire, si tu veux atteindre tes objectifs dans la vie, que ce soit des rêves ou peu importe, t'as pas le choix évidemment de donner tout ce que t'as là.
Pourquoi le baseball? Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi le baseball? Parce que vous aviez des qualités athlétiques là.
Mm-hmm. Ben écoute. C'est qu'à un moment donné, j'ai comme une relation qui s'est créée avec ce sport-là. Tu sais, c'est un sport qui est très différent du hockey, par exemple, où c'est bon la vitesse, la rapidité. C'est la même chose au baseball, mais il y a un temps où il faut réfléchir. Et j'ai vraiment tombé en amour avec ce sport-là. Mes qualités athlétiques me permettaient, selon moi, de me démarquer davantage dans le baseball, même si... Moi, je me souviens même, mais mon père, ma famille me disait, le baseball, t'es-tu sûr, Marc? T'sais, parce que le dernier avait été Claude Raymond 20 ans auparavant. Mmh. Donc, il n'y avait pas une tonne qui avait nécessairement percé dans ce sport-là. Mais je sais pas, j'y croyais, je voulais, je me comparais, puis je me disais, ben, je pense que j'ai quelque chose d'aller offrir à ce sport-là.
On voit toutes les étapes, là, parce qu'il y en a eu plusieurs également. Mais ce que je remarque, c'est le rôle de votre père. Là. Il revient très souvent, entre autres, quand vient le moment de signer pour un club. Il a une grande influence sur vous.
Ben, vous savez, vous avez 18, 19 ans, puis là, on commence à vous faire offrir des contrats à gauche, à droite. J'avais pas nécessairement la maturité pour prendre cette décision-là seule. Alors, mon père a été un excellent guide. Moi, je me souviens, quand j'ai reçu la première offre des Expos, donnez-moi un stylo quelqu'un, là, je vais signer. Là, c'était incroyable. Là, c'était un rêve qui venait réalité. Mais là, mon père qui disait un instant, s'il t'offre ça là, d'autres équipes vont faire surface. Parce qu'il faut pas oublier qu'à l'époque, je fais juste une petite parenthèse, c'est que les joueurs québécois-canadiens étaient des joueurs autonomes. On n'avait pas à passer par le repêchage. Donc, c'est pour ça que j'ai eu la chance d'avoir quelques équipes qui ont montré de l'intérêt, ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, j'ai signé éventuellement avec les Dodgers de Los Angeles. Mais effectivement, mon père m'a bien guidé parce que, bon, j'étais tellement excité de
signer.
Mais
le réflexe, là, parce que là, on le voit, la négociation que votre père a menée en disant, bon, ben je vais leur demander tant, puis là, les Dodgers arrivent, puis ils vont envoyer un tel qui va venir voir le match, donc ils sont sérieux, là. On crée des conditions pour... Mais le fait que les Expos n'ont pas réussi à vous convaincre la première fois, là, ça a été quoi votre réaction?
Bon,
je comprends que vous étiez content que les Dodgers s'entendent avec vous, là. Et de voir le club de Montréal, le club du Québec.
Ben, c'était très décevant. Je vais vous dire, là, c'était très décevant parce que, puis je pense que dans le livre, ça le relate bien, je voulais jouer pour les Expos. Ouais. Et là, je suis entré dans, évidemment, la business du sport où là, bon, évidemment, ça a parti d'un côté au lieu de l'autre, mais, j'ai été déçu, puis j'ai travaillé plus tard pour l'organisation des Expos, puis j'ai encore de la misère à comprendre pourquoi des choses comme ça se sont déroulées, pourquoi on signait pas des Denis Boucher ou des Mark Griffin. On en a signé quelques-uns, mais on était des joueurs autonomes à l'époque. On fera pas le débat des Expos, mais c'était quand même décevant. Surtout que je pense que les Dodgers m'avaient suivi beaucoup, les Expos également. Bill Stoneman avait fait un voyage à Québec pour venir me voir jouer. Les dépisteurs étaient venus. J'étais moi-même allé faire une espèce de camp. J'étais prendre part à l'exercice au bâton avec les Expos également. j'avais l'impression que je jouais suffisamment bien, je montrais suffisamment mon talent pour que les expos puissent vraiment aller me chercher. Puis lorsque, d'ailleurs, ironiquement, je suis allé jouer un match au Stade olympique contre la filiale des expos de Montréal, où j'avais eu un excellent match et j'étais convaincu là, que là, les expos allaient dire « OK, garde, tu nous as justement convaincu, on fonce avec toi, on va te donner le montant d'argent que les Dodgers veulent te donner, nous autres, on le veut absolument. » Puis la réponse a été non. Alors, ça a été décevant, mais je l'ai pris en même temps en me disant « C'est pas grave, il y a une organisation qui me veut, puis c'est pas la moindre, c'est celle des Dodgers de Los Angeles. » Alors, j'ai tourné la page rapidement à ce moment-là sur cette histoire.
Sur les expos. Ouais. Vous décrivez les étapes d'un joueur de baseball qui signe avec une organisation qui est prestigieuse, les Dodgers de Los Angeles, quand même pas rien. Et contrairement au hockey, on dit « OK, il est repêché junior, il s'en va soit à son club junior, il retourne à son club, ou encore dans la Ligue américaine, plus rare, va faire le saut la première année. » Le baseball, c'est pas ça. Le baseball, je sais pas combien il y a de filiales par équipe, mais du A2A, 3A, là, c'est comme un parcours sans fin dans des bleds aux États-Unis.
C'est intense. Je vais vous dire, en fait, il y a du A recru, A moyen, A fort, 2A, 3A. Alors, vous imaginez, plus évidemment l'équipe des majeurs, vous imaginez le nombre de joueurs au camp d'entraînement. Alors, t'arrives là, t'as le numéro 79, puis bonne chance, là, tu sais. Alors, écoute...
C'est parce que vous avez toujours été le meilleur. Quand vous êtes dans les juniors, là.
Ouais.
À quel moment on réalise qu'on n'est pas tout seul à être bien bon comme ça? Puis qu'il y en a peut-être d'autres qui sont meilleurs encore.
Assez vite, merci.
Oui.
Je te dirais, la première journée, la première exercice sur le terrain, là, tu regardes les gars se lancer, tu regardes le physique imposant. J'ai pas un physique imposant déjà. Il y a une forme d'intimidation qui est réelle. Sauf que j'avais des forces, puis je me répétais souvent de les exploiter, ces forces-là. Puis ça m'a permis de faire mon petit bout de chemin dès le départ, en me disant « OK, je suis peut-être pas aussi gros, aussi fort, aussi si, mais je suis capable de faire ça un petit peu mieux qu'eux autres, ou du moins j'ai l'impression de... » C'est comme ça que tu réussis à te faufiler dans cette jungle-là, parce que j'en ai vu des joueurs là, mais d'un talent incroyable, où ils font tout, là, ils ont le physique, la rapidité, des fibres rapides justement, des bras de canon, mais qui se sont écroulés face à l'adversité ou face à avoir tous ces talents qui sont devant eux. Eux qui n'avaient jamais vu ce genre de situation-là. Donc, t'as pas le choix de faire ta place, de foncer. Puis comme j'ai mentionné, moi, la phrase clé, c'est d'exploiter mes forces. On me l'avait enseigné à un moment donné quand j'étais avec l'équipe canadienne junior, puis ça m'est toujours resté. Alors, quand j'arrive dans des situations comme ça, il faut que je trouve le moyen de me démarquer. Puis moi, un coach m'avait toujours dit, tu sais, t'arrives dans un camp, t'es 100 joueurs, on a tous des... Tu sais, on est tous pareils. Mais si t'es rapide, il faut qu'à la fin de la journée, tout le monde sache que t'es rapide. Si t'as un bon bras, il faut que tout le monde sache à la fin de la journée que t'as un bon bras. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, c'est vraiment donc d'exploiter les forces. Chacun en a. Là, lorsque tu te retrouves dans le baseball professionnel, de toute évidence, t'as des habiletés, mais il faut que tu les exploites.
Quand on côtoie, pour toutes sortes de raisons, les stars du baseball, là, puis qu'on se retrouve sur le même terrain, vous aviez dit tantôt, ben, c'était au stade contre la filiale, mais quand même, là, qu'on arrive avec un joueur qu'on sait que lui est un joueur établi, c'est quoi la réaction? On est intimidé? On essaie de l'observer davantage? Dans les camps d'entraînement, par exemple?
Ben, je ne sentais pas intimidé.
Non.
Impressionné. C'était plus le terme impressionné, parce que lorsque j'ai signé avec les Dodgers, ils venaient de remporter la Série mondiale en 1988. Donc, j'arrive avec les champions de la Série mondiale. Oral Hershiser venait de signer un contrat de 3 millions par année, puis on disait que c'était incroyable. Le baseball est rendu où? À 3 millions par année, vous imaginez. Mais... C'est impressionnant. Et oui, l'observation fait partie, évidemment, d'un jeune qui arrive. Pourquoi ils sont là, eux autres? Ils ont les mêmes habiletés que nous autres, mais ils font de façon constante, de façon... à la perfection. Alors moi, j'ai observé beaucoup. J'avais surtout leur attitude. Parce que le baseball, là, t'échoues 7 fois sur 10 au bâton, puis t'es bon, là. T'es le meilleur. Tu sais, 3 fois sur 10, t'as frappé un coup sûr. Alors là, comment ils réagissent, eux autres, devant l'échec? C'est quoi leur caractère? C'est quoi leur langage corporel? Moi, c'est surtout ça que j'observais pour être un meilleur joueur puis paraître confiant. Parce que si tu parais confiant, par exemple, un lanceur qui est au monticule, qui paraît hyper confiant, puis ça ne les dérange pas, il y a une forme d'intimidation. Alors, c'est la même chose au bâton. Alors, c'est toutes des choses que j'ai appris dès le départ en observant des Kurt Gibson ou des joueurs qui, à l'époque, étaient des joueurs étoiles.
Notre invité ce matin, Mark Griffin, et on parle de son livre, donc, 26, récit autobiographique. C'est publié aux éditions de Mortagne. Vous avez fait, évidemment, tout un parcours aux États-Unis, là. Laissons le baseball de côté. La vie aux États-Unis, comment vous avez trouvé ça?
Je me suis adapté très bien. En fait, où j'ai le plus de misère, c'est la chaleur. Ma première année dans la Ligue de la Floride. Alors, imaginez-vous l'été, là, au mois de juillet, au mois d'août en Floride. Et on m'avait donné aussi à l'époque, on m'avait averti. Elle dit, Marc, tu vas voir, rendu au mois d'août, le corps va flancher. Il fait chaud, c'est dur. T'sais, puis je passe du Québec de jouer 50, 60 matchs maximum à plus de 150. La chaleur, effectivement, m'a rattrapé au mois d'août à un certain moment donné. Mais bon, on se refait une force, puis ça fonctionne. Moi, je me suis très bien adapté aux États-Unis. J'ai joué partout. Je suis allé jusqu'à la Ligue de Californie, la Ligue Eastern, qui est ici sur la côte est américaine. Ça n'a jamais été un problème pour moi de m'adapter à ça. C'est sûr que, écoute, j'ai jamais respecté un bail de ma vie. Tu
changes de ville.
Tu changes de ville, t'es rappelé, on passe de la Floride en Californie, t'es échangé.
Mais vous dites que les Américains ont un drôle de regard sur ceux qui sont pas Américains. Vous dites ça même dans le livre.
Ben, en fait, moi, ça a été un avantage. Tu sais, j'étais le petit Frenchie. Je faisais des entrevues en français, on me regardait, tu viens de où, c'est quoi, tu sais, le Canada. En fait, ce que tu remarques souvent, c'est que l'éducation américaine par rapport au Canada, tu sais, je me faisais demander, y a-tu de la pizza ici, avez-vous de l'électricité, ça va très, très loin. Mais ça faisait en sorte que je pouvais justement les éduquer en disant, écoutez, Montréal, voici au Montréal, voici le Canada, voici qu'est-ce qui se passe. Puis on pensait qu'au Canada, il y avait de la bière puis du hockey seulement. Ben non, on peut jouer au baseball aussi. Donc, il y avait cette relation-là qui faisait en sorte que ça me démarquait un peu des autres et qui me rendait un peu plus populaire auprès des joueurs.
On sait, vous l'avez dit tantôt, là, il n'y a pas beaucoup de francophones qui ont pu percer au baseball. Le fait là, que vous soyez francophone, que tous les médias, je regardais là, la couverture à la fameuse conférence de presse au Château Bonentente, c'était comme si on signait un joueur étoile qui s'en venait sauver la concession. Est-ce que c'est trop de pression? Puis on pense à des joueurs du Canadien aussi qui vivent ça. Dès qu'un francophone perce, ou en tout cas donne l'impression qu'il va peut-être percer, là, c'est comme, il est tout de suite, là, les projecteurs sont sur lui.
C'était beaucoup. Je me souviens à l'époque, justement au Château Bonentente, où je suis rentré dans la salle, puis j'ai vu les médias, les caméras. C'est là que ça m'a vraiment frappé. Et j'avoue que je me suis dit, bonne chose que je signe avec les Dodgers, parce que si ça avait été les Expos, ça aurait peut-être été mon quotidien
en plus
de vivre ça. Je dis pas que c'est un défi que j'aurais relevé, là. Je pense bien, en tout cas. Mais sur le coup, je me suis dit, c'est peut-être une bonne chose, finalement, de m'éloigner un petit peu puis d'aller jouer au baseball comme un bon joueur de baseball et non comme un Québécois qui joue dans une ville québécoise. Comme je vous dis, ça doit être très difficile pour un Québécois de jouer pour le Canadien de Montréal. J'en ai pas de doute là-dessus. Est-ce que ça aurait été aussi difficile pour jouer pour les Expos? Selon moi, oui.
J'ai quelques questions en terminant. D'abord, à quel moment vous vous êtes rendu compte là, que, malgré les efforts puis le fait de se promener, la carrière sera pas celle que vous auriez souhaité?
La journée où tu penses à un plan B.
C'est là que...
Quand t'es focusé, t'as ton uniforme, tu penses... T'sais, souvent, les gens me disaient, qu'est-ce que tu vas faire après? Je sais pas ce que je fais après. J'ai un focus, j'ai un défi, j'ai un objectif, puis je m'en vais là. Et la journée que tu dis, ouais, là, il faudrait peut-être que je pense à autre chose, bang! C'est le déclic qui fait que là, on tourne la page. Puis je l'ai tourné assez rapidement. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais que les gens, les parents disent, faut que tu fasses tes études, puis faut que tu te prépares à autre chose parce que le sport, ça, tu sais, c'est limité évidemment dans le temps. Mais tu peux pas. Il y a trop de défis, il y a trop d'obstacles. Alors l'acharnement, le focus, c'est centré là-dessus. Et comme j'ai mentionné, la journée où j'ai dit, OK, là, tu prends de l'âge, j'avais subi une blessure importante, un paquet de facteurs qui dit, OK, là, faut que tu penses à autre chose. Et c'est là que ça se termine.
Et le baseball à Montréal, vous y croyez?
Moi, j'y crois beaucoup. Évidemment, les gens qui sont derrière le nouveau projet, je pense qu'ils ont leur crédibilité est là. Je crois beaucoup à Stephen Bronfman. Je regarde les Bouchard. Ces gens-là, c'est des gens qui sont sérieux. Le commissaire aussi est favorable, évidemment, à un retour. Alors ça, c'est un plus. Mais moi, j'y crois. J'ai toujours cru parce que je crois sincèrement que l'infrastructure dans laquelle une équipe joue, surtout au baseball, est l'élément clé. Oui, évidemment, ça prend une bonne équipe, ça prend une bonne organisation. Mais malheureusement, en 36 ans d'existence, les Expos n'ont jamais eu une infrastructure digne des ligues majeures. Et demander à n'importe quel Québécois qui s'en va voir un match à Boston, à Pittsburgh, à New York, à Philadelphie, peu importe, ils vont toujours revenir. Ah, c'était le fun. On est emballé, il y a de l'ambiance. Puis moi, j'aimerais ça qu'à Montréal, on puisse vivre ça. Puis avec l'histoire du baseball à Montréal, qu'on retourne jusqu'à l'époque de Jackie Robinson, ou évidemment la belle époque des Expos, moi, je suis convaincu que ça peut fonctionner dans un environnement qui est propice à ce sport-là. Puis d'autant plus que bon, le partage des revenus aujourd'hui fait en sorte qu'une franchise canadienne peut facilement fonctionner même malgré les contrats qu'on entend parler. C'est une industrie qui a beaucoup d'argent présentement, qui est très saine financièrement. Et je suis convaincu que ça peut fonctionner.
Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Ben, merci de m'avoir reçu.
Mark Griffin, donc 26, c'est publié aux éditions de Mortagne, récit autobiographique et préface de Jacques Doucet d'ailleurs. On va faire la pause et on revient après pour le sujet de tribune téléphonique.